Chapitre 2. L'image de soi en rhétorique. L'éthos s'affirme ainsi comme une dimension capitale de la rhétorique. Bien souvent, gagner la confiance des auditeurs contribuera à emporter leur conviction, voire nous épargnera même d'avoir à déployer une argumentation. Il nous faut désormais explorer les arcanes de cette dimension pour en faire non plus une donnée à intégrer, mais bien un outil à exploiter. Il est impossible ici de ne pas se référer de nouveau à Aristote. Selon lui, l'oratrice ou l'orateur se doit de cultiver trois attributs afin d'obtenir l'adhésion de son auditoire, paraître vertueux, prudent et bienveillant. Prenons garde toutefois au contresens. Au IVe siècle avant notre ère, ces trois termes désignaient des qualités plus vastes qu'aujourd'hui. La vertu, c'était avant tout donner le sentiment d'être honnête et équitable. La prudence désignait, elle, la capacité à articuler des arguments raisonnables et délibérés. La bienveillance renvoyait, enfin, au fait de témoigner de l'obligeance et de l'amabilité envers l'auditoire. Ou, pour le dire dans un lexique plus contemporain, nous allons devoir apprendre à nous montrer sincères, compétents et séduisants. Mais avant cela, il nous faut comprendre l'articulation entre les deux composantes générales de l'éthos, préalable et discursive. 1. Éthos préalable et discursif. L'image que nous renvoyons de nous-mêmes. Aussi simple que semble cette définition de l'éthos, elle n'en comporte pas moins une ambiguïté fondamentale. Cette image que nos auditeurs ont à l'esprit lorsqu'ils nous écoutent ou nous lisent, d'où leur vient-elle? De ce que nous avons dégagé quand nous nous exprimions, ou bien de ce qu'ils savaient de nous avant même que nous ne formulions notre premier mot? Nous venons de nous heurter aux deux versants de l'éthos, discursif et préalable. L'éthos discursif, c'est l'image que nous construisons au cours de notre prise de parole. Cela passe en premier lieu par ce que nous disons explicitement de nous-mêmes, le discours que nous produisons sur notre propre personne. J'ai toujours eu à cœur l'honnêteté. Vous savez, j'ai changé. Je suis et je resterai un fils d'ouvrier. Mais, aux côtés de cet éthos dit, il y a également un éthos montré, implicitement. Nous ne revendiquons plus ouvertement une qualité ou un attribut, nous tentons de l'exhiber dans et par notre discours. Nous parlons et agissons de manière à paraître honnête, faire preuve de notre transformation ou donner à voir nos origines ouvrières. Pour y parvenir, il nous faudra exploiter tous les canaux de la communication orale, le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Ce que nous disons, la manière dont nous le disons et ce que notre corps dit pour nous. Nos phrases, nos mots et nos sonorités, notre intonation, notre rythme et nos silences, notre posture, nos gestes et notre apparence. Ensemble, ces trois dimensions constituent ce que l'on nomme l'action oratoire, c'est-à-dire l'énonciation de notre intervention. C'est elle qui va déterminer l'image que nous composons au cours de notre discours, ou plutôt d'ailleurs, l'image que notre discours compose de nous. Au fil de notre intervention, tout ce que nous disons, faisons et incarnons contribue à influer sur la représentation que nos auditeurs ont de nous. Et ce, avant même que nous ne commencions à parler, la manière dont nous nous tenons, les vêtements que nous portons, le visage que nous présentons suffisent à projeter un embryon d'éthos. Notons que, lorsque nous nous exprimons à l'écrit, seule la communication verbale entre en ligne de compte, bien évidemment. L'éthos préalable, aussi appelé parfois éthos prédiscursif, c'est l'image que nos auditeurs ont de nous avant que nous ne prenions la parole. Il est courant, en effet, que nous nous exprimions devant des individus qui nous connaissent déjà. Que nous soyons un personnage renommé ou un quidam, dans leur esprit, une certaine image de nous préexiste. Elle s'est sédimentée peu à peu, au gré de nos interventions publiques ou interactions privées, mais aussi de toutes les informations qui circulent à notre sujet. Cela étant dit, il arrive également que nous prenions la parole devant des auditeurs qui ne nous connaissent pas personnellement. Nous n'en sommes pas pour autant vierges de toute éthos préalable. Peut-être ont-ils entendu parler de nous ? Connaissent-ils notre réputation ou notre statut ? Sont-ils au courant de bruits ou de rumeurs ? Et quand bien même ce ne serait pas le cas, nous ne partons jamais d'une page blanche. Notre âge, notre genre, notre patronyme, tout cela véhicule malgré nous une certaine image, faite d'a priori et de préjugés, certes, mais déterminante néanmoins. Prenons un exemple encore trop courant malheureusement. Il suffit que certains hommes repèrent le nom d'une femme sur le programme d'une journée de conférence pour qu'ils poussent à l'avance des soupirs d'exaspération. Avant même d'avoir pu prononcer le moindre mot, cette oratrice sera, à leurs yeux, lestée d'un éthos désavantageux. Il nous faut prendre la mesure de ce que ces concepts impliquent. Du point de vue de la rhétorique, nous sommes toujours précédés par une image de nous-mêmes. La moindre donnée suffit à faire exister un éthos préalable. Une seule seconde de présence fournit assez d'indications pour projeter un éthos discursif. L'image devance toujours le discours. Bien sûr, plus nos auditeurs auront d'informations à leur disposition, plus ils nous connaîtront depuis longtemps, et plus notre image sera déterminante dans leur jugement. À l'inverse, si nous nous arrangeons pour qu'ils en sachent le moins possible, elle aura peu de poids. Mais dès lors qu'un texte est signé ou un discours incarné, il en devient irrémédiablement marqué du sceau d'un éthos, aussi fantomatique soit-il. L'image que nous renvoyons est donc toujours la combinaison de ces deux composantes, l'une déjà là, l'autre en train de se faire. Ce qui signifie également qu'elles sont en constante interaction. L'éthos préalable détermine en grande partie ce qu'il nous sera possible de construire par notre éthos discursif. Nous serons rarement libres de forger exactement l'image que nous voulons au cours d'une intervention. Si nous désirons rester crédibles, il nous faudra composer avec ce que l'auditoire sait déjà de nous. Mais, en parallèle, notre éthos discursif ne manquera pas d'avoir, à son tour, un impact sur notre éthos préalable. Au terme de notre intervention, ce que nous aurons dit et fait viendra déposer une nouvelle couche de sédiments dans l'esprit de nos auditeurs. Si nous avons bien travaillé, l'image qu'ils se faisaient de nous s'en trouvera renforcée et peut-être même bouleversée. En tant qu'oratrices ou orateurs, il nous faut donc en premier lieu avoir pleinement conscience de l'éthos préalable à partir duquel nous allons nous exprimer. S'il est faiblement structuré, constitué d'informations parcellaires ou superficielles, tant mieux, cela nous offrira l'opportunité de mettre en avant une image parfaitement adaptée à notre message et à notre auditoire. En revanche, si nous argumentons à partir d'un éthos préalable lourdement chargé, nous devrons nous saisir de cette occasion pour l'améliorer ou le redresser. Affermir nos qualités positivement perçues, conquérir les mérites dont nous semblons dépourvus, aplanir les défauts pour lesquels nous sommes connus. Bien souvent, corriger notre éthos préalable par notre éthos discursif sera l'un des enjeux les plus cruciaux de notre prise de parole. C'est ainsi que nous parviendrons à cultiver les trois attributs les plus précieux, paraître sincère, paraître compétent, paraître séduisant. Si le mot « paraître » est répété à trois reprises dans la phrase, c'est qu'il y est, de loin, le plus important. Soyons clairs, dans les pages qui suivent, nous ne nous intéresserons jamais aux qualités intrinsèques des individus. Que les oratrices et les orateurs soient des personnes aimables ou détestables, cela n'est pas notre sujet. D'une part, car il faudrait au préalable nous entendre sur ce qui fait d'un être humain qu'il est authentiquement sincère, compétent et séduisant. Cela nécessiterait de nous engager dans des développements relevant de la philosophie, de l'épistémologie ou de la spiritualité. D'autre part, et surtout, car cela n'aurait aucun intérêt rhétorique. Comme nous allons le voir, il arrive d'être authentiquement sincère ou compétent tout en échouant à le montrer. Notre rôle consiste donc à nous assurer que les individus prenant la parole parviennent à être perçus comme dignes de confiance. Qu'ils possèdent effectivement les qualités revendiquées, cela n'est plus de notre ressort. Comme le résume clairement le linguiste Christian Plantin, « Au-delà du reproche constant fait à la rhétorique de prétendre donner les moyens aux incompétents, menteurs et escrocs de tromper leur public, il s'agit de faire en sorte que celui qui est compétent et honnête le paraisse. L'art du paraître n'est pas moins nécessaire aux honnêtes gens qu'aux crapules. » 2. La sincérité. Première exigence pesant sur l'éthos des oratrices et des orateurs, il nous faut paraître sincère. Elle est un préalable, une fondation. Sans elle, tout l'édifice s'écroule. Nous pouvons bien avoir l'air éminemment sympathique et diablement compétent si nos auditeurs n'ont pas le sentiment que nous sommes nous-mêmes convaincus par ce que nous soutenons. Pourquoi nous ferait-il confiance? Que nous soyons ou non authentiquement sincères, il va donc falloir réussir à en donner l'impression. Paraître dire ce que nous pensons et être qui nous prétendons. Pour cela, nous allons devoir travailler dans trois directions: la cohérence, la congruence, la constance. L'exigence de cohérence. L'exigence de cohérence se joue à l'échelle de notre message. Si notre argumentation est rigoureusement articulée en un système solide et convergent, où tous les éléments se soutiennent, nos auditeurs n'auront pas de raison de douter de nous. À l'inverse, si des tensions, voire des contradictions émergent, nous risquons fatalement de susciter des interrogations. Ne serions-nous pas en train de tenir un double discours? Si nous semblons dire à la fois une chose et son contraire, n'est-ce pas la preuve irréfutable qu'une partie au moins de notre propos n'est pas sincère? Auquel cas, comment nous faire confiance? Pour éviter de voir de tels doutes émerger, nous n'avons qu'une solution: soigner la cohésion interne de notre argumentation. Cette exigence de cohérence s'applique aussi, de manière plus délicate, à l'évolution de nos positions au cours du temps. Si nous pouvons montrer que, les mois et les années passant, nous ne varions pas d'un iota sur nos convictions, celles-ci en sembleront d'autant plus authentiques. A contrario, si nous donnons l'impression de changer d'avis comme de chemise au gré des circonstances et des opportunités, nous risquons de passer pour des tartuffes et d'y laisser toutes nos chances d'emporter la conviction. Bien sûr, il est normal et sans doute même souhaitable de voir nos opinions évoluer progressivement. C'est la preuve que nous savons nous remettre en question. Mais nous devrions alors être capables de produire des explications afin de montrer que ces revirements sont de bonne foi. Ce que l'on reproche à une girouette, ce n'est pas de pivoter constamment, mais d'être guidé par le vent. Cohésion de nos argumentations en chaque instant, stabilité de nos positions dans le temps, en respectant ces deux exigences, nous mettons de notre côté toutes les chances d'être crédités d'une certaine cohérence. Nous comprenons mieux désormais pourquoi il faut absolument être capable de répondre aux objections ad hominem qui pourraient nous être opposées. Dans le cas contraire, ce n'est pas uniquement l'efficacité de notre logos qui en souffrira, mais aussi, et peut-être même surtout, la sincérité de notre éthos. L'impératif de congruence. L'impératif de congruence se joue à l'échelle de notre action oratoire, c'est-à-dire au moment de l'énonciation de notre discours. Il concerne donc uniquement les interventions orales. Par congruence, nous entendons le fait que toutes les dimensions de notre communication soient alignées. Les informations que nous transmettons de manière verbale, paraverbale et non-verbale convergent dans la même direction. Nous savons qu'un orateur s'exprime de manière congruente lorsque rien ne vient troubler la délivrance de son message. Tout semble fluide, naturel, authentique. À l'inverse, l'incongruence se manifeste par des frottements, des tensions, des discordances qui peuvent être délicates à repérer consciemment, mais n'en sont pas moins tangibles et gênantes. Une personne prétendant ressentir une joie débordante, mais s'exprimant d'une voix morne et indifférente. Ou bien déclamant sur un ton enflammé, tout en se tenant statique et recroquevillé. Nous ne savons pas toujours d'où cela vient, mais nous sentons que quelque chose nous pousse à douter de la sincérité de la personne en train de s'exprimer. La meilleure illustration d'une communication incongruente se trouve peut-être dans une situation que les parents connaissent bien. Notre enfant vient de faire une bêtise. Par exemple, pendant que nous avions le dos tourné, il a ouvert le frigo et dévoré 4 pots de crème dessert. Découvrant son méfait, nous sommes irrémédiablement tiraillés entre la nécessité impérieuse de le réprimander et l'envie irrépressible de rire devant son visage intégralement peinturluré de traces chocolatées. N'écoutant que notre devoir, nous tâchons d'affecter la colère. Peine perdue, très vite, nos lèvres tressaillent, nos yeux pétillent, notre voix flanche. Faute de congruence, notre message perd toute crédibilité. D'abord hésitant, notre enfant finit par glousser, et nous avec lui. Bien souvent toutefois, les conséquences d'une action oratoire incongruente seront plus graves que cela. Le risque que nous courons, c'est de nous aliéner un auditoire dont il fallait absolument emporter la conviction. Comment nous garder de ce travers? Idéalement, en ne prenant la parole que lorsque nous sommes pleinement sincères. C'est alors toute notre communication qui, d'elle-même, tendra à s'aligner. Dans le cas contraire, il va falloir nous entraîner. À l'aide d'un miroir, d'un enregistrement, d'un ami attentionné ou d'un professionnel de la prise de parole dont c'est précisément le métier. Nous touchons ici à la frontière qui sépare la rhétorique de l'éloquence, voire de la comédie. En cette matière, avouons que même les meilleurs formateurs font rarement des miracles. Parvenir à modeler sa congruence jusqu'à façonner une sincérité factice, voilà moins le signe d'un orateur studieux que d'un acteur talentueux. Et, comme nous l'avons vu lorsque nous envisagions la contagion des émotions, cela n'est pas donné à tout le monde. Du point de vue des auditeurs et des auditrices, cette limite naturelle agit comme un puissant garde-fou qui nous protège, en partie au moins, contre les assauts des rhétoriques inauthentiques.